Martin,
oui.
Tu voulais nous parler justement de la rétrospective Oshima. Et c'est vrai que l'an dernier, on a beaucoup parlé d'Ozu à cette période de l'année. Cette année, c'est Oshima qui est sur toutes les lèvres des cinéphiles.
Enfin, du moins la Cinémathèque pour l'instant.
Alors, du moins la Cinémathèque, plus un coffret chez Carlotta, plus des ressorties en salle, dont Furio.
Oui. Et ah, puis, il me semble qu'il y a aussi la cérémonie, le petit garçon et. Oui. Et puis. La pendaison aussi, il me semble.
La pendaison, ouais.
Oui, voilà.
Ah, excellent.
Voilà. Donc, le troublion, on va dire, du cinéma japonais est mis à l'honneur. Enfin, le troublion, dans le sens où il a un peu cassé les codes, quoi. C'est un moment où le cinéma était vraiment dans une période où ça allait plutôt mal, l'arrivée de la télé, et puis bon, les gens désertaient les salles, il fallait vraiment trouver une solution. Et la Chuchiku, qui était quand même un studio hyper conservateur.
Tu parles du milieu des années 50, fin des années 50.
Fin des années 50 et début 60, décide de renouveler un peu son cheptel de cinéaste et de promouvoir certains assistants au titre clé, quoi, au poste clé. Et donc c'est comme ça que Oshima, qui était un assistant, mais qui était déjà bien engagé, hein, qui me semble écrivait déjà pas mal de critiques ou d'essais assez remarqués justement sur le cinéma, sur ce qui devrait être. Voilà, et donc promu à ce poste. Et donc, il va réaliser 4 films pour la Chuchiku, si je ne me trompe pas. Parmi ces films, les 3 premiers sont assez emblématiques. Je lis toujours les titres. C'est Une vie, vie d'amour et d'espoir, Conclure de la jeunesse et l'enterrement du soleil. Et en apparence, ce sont des films qui sont vraiment très très classiques. Mais déjà, que ce soit dans la forme, dans les thèmes, il est en train de dynamiter les codes, quoi. D'une manière assez intéressante. On l'a beaucoup assimilé à ses débuts, à ce qu'on appelait les films à génération du soleil. Qui était toute une série de films qui passaient après le succès, un grand succès littéraire, hein, qui parlait voilà, de l'émancipation de la jeunesse et tout ça. Mais lui, il s'en est très très vite détourné, et je pense aussi pour une raison idéologique, parce que l'écrivain justement de ce bouquin viré extrême droite est quand même une personnalité assez nauséabonde et très connue de la politique japonaise actuelle. Donc voilà, lui il était vraiment très très extrême gauche et il a commencé au fur et à mesure un peu à politiser son discours. La Chuchiku lui faisait plus ou moins confiance, mais le grand tenait quand même des circuits d'arrêt d'essai quand même assez fermés, peu de publicité. Et puis finalement il a réussi à prendre son envol avec Une nuit brouillard au Japon, où là carrément il a limite tourné en catimini, et quand il leur a livré, les mecs, ils ont pété un ton, quoi. Je pense que c'était vraiment voulu, et il cherchait un point de rupture, et c'est ce qu'il a obtenu, quoi. Donc, il a pris soin de l'indépendance, et puis il a créé ses propres sociétés de production, et du coup, quand il a commencé à faire un cinéma beaucoup plus radical, plus expérimental, beaucoup plus politisé aussi. Certains de ses films étaient pourtant encore distribués par Fujishiku, donc comme quoi il avait gardé certains bons rapports avec eux. Et après une bonne dizaine d'années d'expérimentation assez folle, il a eu des rapports avec des producteurs français notamment. Bon, c'est là comme ça qu'est né des projets comme l'Empire des Sens, pour lequel il était. Il y a eu des gros problèmes de procès, enfin un long procès de 5 ans pour obscénité, quoi. Et puis l'Empire de la Passion et tout. À chaque fois, c'était des productions avec l'étranger, quoi. Faire yo-yo, c'est avec les Anglais. Il a refait un film avec justement, produit par la France, qui était Max Mon Amour, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et puis bon, il a terminé finalement avec un film presque classique, puisqu'il revient avec la Chuchiku, il me semble, pour Tabou. Guato, qui a été son dernier long métrage. Donc, la particularité justement de cette rétrospective, c'est que c'est vraiment une rétrospective complète. C'est-à-dire que non seulement vous avez tous ces longs métrages dans leur intégralité, on a les bonnes copies, enfin du moins dans celles que j'ai vues pour l'instant sont toutes de très bonne qualité. Et puis, vous avez l'occasion de voir de nombreux, comment dire, documentaires, courts-métrages, et puis sa fameuse série, Dawn of Asia, qui fait une 13, 13 épisodes. Donc voilà, c'est son travail pour la télé. Et ça permet justement de remettre un peu à sa juste place un cinéaste qui a vraiment cassé les codes, et puis le cinéma moderne japonais lui donne énormément, quoi. Encore aujourd'hui, certains cinéastes qui sont quand même, qu'on dit un peu enragés, voilà, dépendent un peu de cette veine-là, quoi.
Tu penses à qui, par exemple, comme cinéaste qui pourrait avoir cette filiation
Pas
de
forcément
Chine?
politique, quand même, un type comme Sous Notion, finalement, il vient un peu de cette veine un peu underground. Il est quand même, il est assez marginal, quoi, même dans le cinéma japonais actuel, et dans ses thèmes, dans ce qu'il raconte, dans les personnages. Alors, bon, c'est vrai que maintenant, une fois sur deux, il adapte un manga, quoi. Bon, il a besoin de survivre aussi, de financer ses projets plus personnels. Mais bon, voilà, il arrive quand même à faire des films qui sont très personnels, assez subversives. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui de cinéastes qui sont aussi politisés, ou du moins on ne les voit pas en France. Mais par contre, de tout ce qui est pour trouver dynamiter la forme, la narration, et parler des petites gens, la jeunesse, des succès, des projets, de l'actualité, avec une espèce de verve, une rage. Voilà, il y a encore quelques-uns qui subsistent au Japon, quoi.
C'est vrai qu'il y avait dans cette génération, parce que je crois que c'est Nicolas dans son dossier qui parle aussi de Wakamatsu qui alliait cette expérimentation formelle
Oui.
à la force du propos politique. Et c'est vrai que maintenant c'est très rare de trouver les deux. Enfin, on trouve dans certains documentaristes japonais aujourd'hui, je pense au réalisateur de Campaign. Notamment cette critique de la société japonaise, ou alors une expérimentation formelle qui peut se faire au sein de studios, comme l'essaye de le faire Sous Notion au sein de la Mikatsu. Mais cette alliance des deux, enfin, c'est-à-dire cette radicalité politique alliée à une radicalité formelle, c'est quelque chose qui semble quasiment impossible
Mais
maintenant au
c'est
Japon.
l'époque aussi qui veut ça.
Oui.
Si tu prends pardon, un réalisateur comme Kuji Yoshida, qui exerçait à la même époque que Oshima, c'est la même chose. Enfin, il reprenait vraiment les codes de la nouvelle vague qui se passait en France, au
Non, mais
Japon, parce
attention,
qu'ils avaient.
attention, il ne reparlait pas l'école de la nouvelle vague en France. C'est-à-dire que Oshima a commencé en même temps, si ce n'est, il a précédé Godard, quoi. Parce que son premier film, non, je vais vérifier, hein. Il a commencé en 59, Godard en 60.
Ben non, en
Voilà.
59 aussi.
Il avait un an d'avance,
À bout
hein.
de souffle, ouais. Le temps que ça arrive au Japon,
Ouais, voilà. Non,
on peut dire que c'est
c'est concomitant, mais je veux dire,
c'est concours.
c'est vraiment un truc. Mais ce que je veux dire,
C'est l'époque.
sans
Mais
polémiquer,
ça se passait
ouais. C'est que
dans
c'était
plusieurs
vraiment
pays
l'époque
simultanément,
fin
je pense.
50, années 60, où il y avait vraiment un propos politique dans le fond et dans la forme, et où on voulait dynamiter à la fois les consciences par le sujet du film, mais aussi la façon dont on faisait le film. Maintenant, ces choses-là sont complètement dépassées.
Oui, mais il faut savoir aussi que dans le contexte historique au Japon, il y avait toutes les manifestations contre par la ratification
Bah,
du traité
oui, enfin ça c'était plus à la fin des années 60, genre
Ah
66,
non,
68,
non, c'est
69.
dès quand à la fin des années 50, début 60, il y a déjà des telles manifestations.
Ça on le voit dans ces films ou
Dans le
dès
Congrès de la
ses premiers
jeunesse,
films?
et en
Ouais.
60, il montre déjà les manifestations. Il y a des films, il est dedans, il a construit ses personnages dans ce contexte-là. Nuit et brouillard au Japon, qui est un film qui se passe, enfin, qui est une espèce de théâtre qui se passe pour un mariage. C'est des règlements de compte entre différentes factions qui ont manifesté, et puis bon voilà, qu'est-ce qu'il reste de ne.
Enfin, si on parle des manifestations et tout, enfin, c'est surtout en 68-69 que ça a commencé à péter au Japon. Effectivement, Oshima a vraiment vogué sur cette vague, si j'ose dire. Mais enfin, je veux dire, c'est pas le seul. Enfin, Wakamatsu a aussi fait ça
Ah bien
à
sûr.
bloc, à bloc, à bloc. Et ils étaient potes d'ailleurs.
Ah oui, mais
Ils
d'ailleurs
étaient.
l'un a produit l'autre, donc
Ouais,
voilà,
tout à
c'est.
fait, tout à fait.
Mais je pense qu'il a ouvert la voie. Maokamatsu, lui, il est vraiment, c'est beaucoup plus, il est underground. Il s'est fait tout seul, c'est un ancien yakuza, voilà, qui s'est lancé dans le cinéma. Aoshima, lui, il a vraiment été formé par les studios. Donc il a vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a cette espèce de rigueur esthétique très très forte, voilà, qui vient de sa formation au sein des studios de la Shujiku, qui était quand même assez réputé là-dessus, quoi. Enfin, bien que ce soit assez rigoureux.
Et qui transcende d'ailleurs aussi le discours politique. Et c'est vrai qu'on peut lui reprocher ça sur certains films, d'être un peu formaliste, d'avoir un dispositif qui est extrêmement rigoureux. Je pense à La Pendaison, par exemple.
Finalement, je pense qu'il est plus proche d'un cinéaste comme Pasolini plutôt que de quelqu'un qu'on pourrait. Enfin, d'un cinéaste français. Je pense qu'il y a un côté pasolinien chez Oshima qui est quand même assez flagrant. Enfin, c'est pas une critique.
Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'est des gens qui sont arrivés en même temps quasiment.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, c'était une époque qui était très mouvementée.
En Italie, voilà. Il y avait ce mouvement qui se passait.
Ils étaient là au bon moment, à la bonne époque, pour exploser tout le système. Voilà. Quoi.
Ils avaient les mains du cinéma de papa. Quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Bon, bah en fait, je pense qu'il est temps de dire un petit mot sur la rétrospective Narbousé. Le cinéma de papa. On va le faire, voilà, on va le faire maintenant, comme la transition voilà. est toute trouvée, mais n'est pas moins.
Donc
pas
voilà, moins vous pouvez encore voir donc, jusqu'à fin avril les deuxièmes séances des films de Nagisa Oshima. Mais si vous les avez déjà vus, par contre, je vous conseille de vous précipiter à la Maison de la Culture du Japon pour aller voir la rétrospective consacrée à celui qu'on considère comme le quatrième maître du cinéma japonais, qui est Mikio Naruse. Et là, pour le coup, on revient à un cinéma, alors, un peu le cinéma que finalement Oshima a cherché à détruire et déconstruire, qui est vraiment celui d'un cinéaste qui était assez proche, on va dire, de Ozu, puisque à ses débuts, Naruse était. On lui disait qu'il était un peu trop proche de son frère de cinéma qui était Ozu. Naruse est vraiment un cinéaste qui est vraiment très très intéressant, dans le sens où c'est le grand maître du mélodrame familial. Voilà, il recentre toujours tout sur cette même thématique, à savoir la cellule familiale japonaise et toujours en temps de crise. Donc c'est toujours traité d'un mode assez réaliste, enfin, du moins pour ceux que j'ai pu voir, et il y a toujours au centre un personnage féminin qui est vraiment le pilier de la famille. Quoi. Et c'est toujours ce personnage-là qui essaie de tenir à bout de bras cette espèce de structure qui est un peu branlante. Et il dénonce un peu la lâcheté des hommes qui préfèrent s'occuper de leur maîtresse ou faire des investissements pour des affaires qui s'avèrent assez peu fructueuses. Naruse est un cinéaste qui a beaucoup. Qui est très littéraire finalement, puisque la majorité de ses films ont été des adaptations de romans assez célèbres. D'ailleurs, il y en a un qui est très très intéressant que j'ai pu voir récemment sur Maison Culture Japon, qui était une adaptation d'un roman de Kawabata, qui était l'un des grands romanciers japonais, et qui s'appelle Le Grondement dans la montagne, avec la sublime Setsuko Hara qui joue, donc qui est, pour ceux qui ne savent pas, la muse de Ozu, et qui là joue encore son rôle de belle-fille japonaise idéale. Quoi. Voilà. Cette rétrospective vraiment intéressante dans le sens où il y en a déjà une précédemment en 2006, là elle est un peu moins complète, mais par contre il y a quand même un avantage, c'est qu'il y a un inédit. Un film qui s'appelle Leto, et qui est vraiment un film absolument formidable, qui a une adaptation littéraire aussi, qui a été aussi adaptée par Claude Chabrol, et un film que je n'ai pas vu, voilà. Mais en tout cas, il serait intéressant de pouvoir les comparer. Mais en tout cas, la version de Naruse est vraiment passionnante. Il ne le traite pas du tout comme un roman policier, mais vraiment comme un film sur la culpabilité. Et c'est un film vraiment assez prenant. La mise en scène est très subtile. Il a un sens du cadre absolument admirable. Il y a peu de cinéastes qui savent cadrer aussi bien en 1.3 que lui. comment il est capable d'utiliser toujours des éléments extérieurs pour accroître la tension au sein du couple. Et vraiment jouer sur des codes presque indicibles, mais qui sont vraiment très très prenants. Et quand on y réfléchit après coup, dans les non-dits, voilà, il y a des choses qui sont tellement fortes que le récit s'en trouve vraiment enrichi de manière vraiment conséquente, quoi.
Donc Oshima à la Cinémathèque et en DVD chez Carlotta et Naruse à la Maison de la Culture du Japon.
Et malheureusement pas en DVD. Ça ne marche pas du tout en DVD.
C'est vrai que c'est un des cinéastes un peu méconnus par rapport au Kurosawa, Ozu et Mizoguchi. Ce sont les trois autres grands cinéastes japonais reconnus.
C'est un peu le génie sacrifié, Naruse.
Bizarrement, j'en avais parlé justement avec M. Arduini, qui est le programmateur de la Maison de Culture du Japon, qui avait participé à l'élaboration du premier coffret édité chez Wayside. Et il me disait, vous connaissez ce que finalement, Naruse ne fonctionne pas en DVD. C'est-à-dire que les gens viennent nombreux à chaque rétrospective, mais par contre, à l'avance, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas uniquement en France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, BFI et Eureka ont sorti chacun un coffret de 3 ou 4 films. Et ils se sont arrêtés là. Parce que ça n'a...
Faudrait peut-être aussi qu'il y ait un événement peut-être plus important que la Maison de la Culture du Japon, comme il y a eu l'année dernière avec Ozu, que Carlotta fasse un énorme coffret avec...
Je pense que l'un des gros problèmes aussi, c'est que Naruse a fait la grande partie de sa carrière à Toho. La Toho est très très difficile pour lâcher les droits de ses films, et surtout ils sont extrêmement chers. Et aujourd'hui, plus aucun éditeur ne veut prendre ce type de risque.
C'est compréhensible. Notez comme nous sommes passés de ce podcast de Dragon Ball Z à Naruse, de manière tout à fait subtile.
Tout à fait logique.
Et nous allons maintenant revenir un peu dans le présent avec les films qui sont sortis en salle.